Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous retrouvons les nouvelles du ciel avec Denis. Bonjour.
Bonjour Gisèle, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galaxie.
On a parlé longuement et je crois sur deux émissions, même presque trois émissions, du milieu interstellaire et des nébuleuses. C'était quelque chose de fascinant.
Oui.
Savoir qu'il y a du vide, mais qui n'est pas vide. C'était vraiment fascinant et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va attaquer un autre thème. Là aussi, il nous faudra plusieurs émissions pour même pas en venir à bout. La formation des étoiles, ça c'est vaste comme question.
Tout à fait, ça permettra aussi de pouvoir faire le lien justement
oui.
avec le thème du milieu interstellaire
oui.
et des nébuleuses.
Mm-hmm.
Hein. Milieu interstellaire, comme nous l'avons abordé, hein, c'est ce qu'on appelle le MIS, hein, ce milieu dans lequel baigne l'ensemble des corps célestes,
hein, oui.
Les étoiles, les planètes, les astéroïdes, entre autres. Et ce milieu interstellaire, justement, va jouer un rôle important, justement, dans la formation stellaire, c'est-à-dire la formation des étoiles dans notre galaxie.
Il faudrait encore savoir reconnaître une planète d'une étoile. Est-ce qu'il y a une différence et comment nous, en regardant le ciel, on peut se dire « Ah mais ça c'est une planète, ça c'est une étoile ».
C'est sûr qu'apparemment, ce n'est pas du tout évident de faire la différence, hein, parce que les planètes ont un aspect d'étoile quand on les observe dans le ciel. Mais en fait, ce sont des corps qui sont morts, hein, qui ne font que réfléchir la lumière d'une étoile située dans l'environnement.
Oui.
Tandis qu'une étoile, c'est un corps qui vit par sa propre lumière. C'est-à-dire que le Soleil, par exemple, émet en fait des rayonnements dans toutes les directions de l'espace, comme le font toutes les étoiles. Contrairement aux planètes qui ne font que renvoyer une partie du rayonnement solaire dans certaines directions
oui.
dans l'espace.
La Terre, puisqu'on dit notre planète,
oui, tout à fait.
Est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte?
Quand on parle de planète morte, ça veut dire que ce n'est pas un corps céleste
oui.
qui fabrique sa propre énergie, son propre rayonnement. Hein. La Terre ne fait que réfléchir aussi la lumière qui provient du Soleil, de notre étoile.
Oui.
Si on habitait sur d'autres planètes dans le système solaire, prenons l'exemple de Mars, hein,
oui,
par exemple,
oui.
on verrait la Terre eh bien, sous l'aspect d'une étoile, à l'œil nu, bien entendu.
Oui.
Maintenant, quand on utilise des instruments optiques, là, on se rend compte qu'il y a en effet une différence entre une planète et une étoile. C'est-à-dire qu'on peut observer des surfaces solides ou des surfaces, des atmosphères planétaires,
oui.
comme les planètes joviennes, hein, comme Jupiter par exemple,
oui.
hein, où on voit bien l'atmosphère. On ne voit pas la surface de Jupiter, on ne voit que son atmosphère
oui.
en fait. Hein.
Oui.
Mais si on regarde la Lune par exemple, on voit une surface qui est criblée de cratères.
Oui.
C'est un corps qui est mort, hein, qui ne fabrique pas de la lumière, naturellement,
oui.
intrinsèquement parlant.
Hein. Oui.
Les corps morts, comme les planètes, les satellites naturels, comme la Lune, hein, qui
oui.
gravitent autour de la Terre, ne font que réfléchir la lumière d'une étoile située à proximité. Hein.
Oui.
Et ça sera la même chose aussi pour les astéroïdes. Et c'est comme ça qu'on peut justement les voir, non seulement à l'œil nu,
mm-hmm.
mais aussi au télescope, bien
oui.
entendu.
Cette année, c'est l'année de la Lune, on va dire, puisque c'est aussi l'anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce système de la Lune qui est noir et on ne la voit pas, et ensuite elle réfléchit la lumière quand elle est pleine?
Après, ça repose en fait sur la rotation de la Lune sur elle-même et autour de la Terre. Et ce qu'on constate, c'est qu'on peut avoir des mouvements synchrones, c'est-à-dire des révolutions, des déplacements autour de notre astre qui soient compensés par la rotation. On voit toujours la même phase de la Lune. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir la face cachée en fait, de la Lune, parce qu'il y a un mouvement qui est synchrone. Ensuite, par rapport à la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre, eh bien, on aura différents types de phases. Vous aurez la nouvelle Lune.
Oui.
La nouvelle Lune, eh bien là, le problème, c'est que la Lune, elle se trouve dans une configuration hein, où elle n'est pas du tout éclairée par le soleil.
Parce qu'elle est dans l'ombre de la Terre ?
Voilà, en quelque sorte.
D'accord.
Voilà. On peut aussi faire la transition aussi avec les éclipses, quand le plan de l'orbite lunaire se trouve dans le plan de l'orbite terrestre. Mmh. C'est-à-dire dans le même plan par rapport au soleil. C'est comme ça qu'on peut arriver à voir les fameuses éclipses.
J'espère avoir bien compris. Donc, nouvelle lune, elle est dans l'ombre de la Terre par rapport au soleil.
Oui.
Comme une éclipse, oui. En fait. Et quand elle est pleine, là, elle est bien éclairée par le soleil et c'est pour ça qu'on la voit bien.
Voilà, tout à fait.
Parfait. Exactement. Les étoiles, bon, elles sont dans le ciel, certes, on les y voit. Mais où est-ce qu'elles sont situées? Et comment ça se situe?
Les étoiles sont situées dans de vastes systèmes qu'on appelle les galaxies. Et notre galaxie, comme vous le savez, eh bien, s'appelle la Voie lactée. C'est
oui.
un vaste amas qui contient à peu près 200 milliards d'étoiles. Et avec ces 200 milliards d'étoiles, eh bien, il y a aussi des planètes, des corps morts, hein, des planètes...
À l'intérieur de cette galaxie.
À l'intérieur de la galaxie et de la Voie lactée, tout à fait. On
oui.
y retrouvera le système solaire. Hein, le système solaire qui se trouve à peu près à 27 000 années-lumière donc, du centre de la galaxie. Hein. Bon, je vous rappelle l'année-lumière. C'est la distance parcourue par la lumière à la célérité de 300 000 km par seconde à un an, ce qui correspond à 10 000 milliards de kilomètres. Donc si vous faites 27 000 années-lumière multipliées par 10 000 milliards de kilomètres, eh bien vous avez une idée de la distance qui nous sépare du centre de la galaxie.
Oui.
Quand je dis par rapport à notre centre de la galaxie, d'accord, c'est par rapport à un bulbe, en fait. Il y a un bulbe galactique au centre de la galaxie autour duquel, eh bien, il y a un disque de matière. Et dans ce disque de matière, eh bien, vous y retrouverez des spirales. Hein. Alors concrètement, pour faire preuve un peu de pédagogie, comment se représenter concrètement une galaxie? Eh bien, vous faites deux œufs sur le plat et puis vous accolez, vous imaginez, hein, vous accolez les deux œufs sur le plat l'un à l'autre, hein, au niveau de la tranche.
Oui.
Et qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez avoir une biconvexité, en fait,
oui.
liée au jaune d'œuf, hein, qui représenterait, en fait, le bulbe central de la galaxie. Et le blanc représenterait le disque. Aux extrémités, ça a une épaisseur, on va dire, de l'ordre des 2000 années-lumière. Voilà. Donc 2000 années-lumière multipliées par 10 000 milliards de kilomètres. Et à fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du bulbe central,
oui.
eh bien là, vous arriverez à un diamètre du bulbe de l'ordre des 7000 années-lumière.
Ah
le
oui.
diamètre.
Quand même.
Voilà. Donc ça veut dire que quand on part de l'extrémité de la galaxie, qu'on se rapproche progressivement du bulbe, eh bien on a une épaisseur de disque qui augmente progressivement jusqu'à arriver à une zone centrale qui est dense en matière, tellement dense que la matière même elle est désorganisée. Hein. C'est ce fameux jaune d'œuf. Hein,
oui.
Pour en revenir, hein, pour faire
oui.
l'analogie avec notre œuf sur le plat, qui représenterait en fait ce fameux bulbe central de la galaxie.
Oui.
Voilà. Et puis dans le disque, eh bien, on a de la matière interstellaire, hein, ce qu'on appelait le MIS, hein, qui est particulièrement, je dirais, concentré au niveau des bras spiraux. Hein. Il y a des bras spiraux qui se dégage du bulbe et qui entoure notre galaxie. Donc c'est pour ça que notre galaxie, la Voie lactée, on parle de galaxie spirale.
Mmh.
Et même pour préciser les choses, c'est une spirale barrée parce qu'il y a une petite barre de matière au niveau du centre. Et notre Soleil, lui, donc, comme je le disais, est situé à peu près à 27 000 années-lumière de ce centre, de ce bulbe galactique.
Il ressemble vraiment à l'image de notre logo, ce bulbe.
Oui, tout à fait, exactement. Bon, il faudrait rajouter la partie centrale, le bulbe, un bulbe bien concentré. Oui. si vous pouvez le représenter de couleur jaune aussi, ça serait pas mal pour faire référence à nos œufs sur le plat. Quoi.
C'est une image.
Alors, ce qu'il y a de formidable dans notre galaxie, c'est que, comme je le disais, on compte à peu près 200 milliards d'étoiles, mais on y trouve toute une gamme d'étoiles différentes. Hein. Oui. Et ça, c'est formidable. On va trouver des étoiles analogues au Soleil, hein, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, mais on va trouver aussi des étoiles beaucoup plus petites, beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses. On va trouver aussi des étoiles de différentes couleurs. On trouvera des étoiles rouges, on trouvera des étoiles bleues, des étoiles jaunes, vertes. C'est quand même formidable. Et aussi au niveau des températures de surface. Hein, on a des températures qui peuvent partir de 3000 degrés à la surface jusqu'à 35 000 degrés pour certaines étoiles, hein, de type O par exemple, qui sont des étoiles particulièrement chaudes, oui, et qui vont jouer un rôle important, hein, surtout dans la matière interstellaire.
Hein. Vous dites qu'il y a des étoiles chaudes, est-ce qu'elles pourraient devenir des planètes habitables ?
Après, c'est en effet en fonction de l'évolution en fait de l'étoile.
Oui. Hein,
parce que pour des étoiles qui sont extrêmement massives, eh bien, on parlera à la fin de leur vie de supernova. Et ce sont ensuite des résidus d'étoiles qui sont particulièrement denses, mais on ne peut pas parler de planètes proprement dites.
Pour en revenir à la situation des étoiles, elles volent en fait dans l'atmosphère, enfin non pas dans l'atmosphère, dans la stratosphère.
Alors en fait, les étoiles, elles se déplacent bien au-delà de la stratosphère.
Hein. Oui, certes.
C'est dans notre quand même galaxie. Hein. Le Soleil, par exemple, a une révolution autour de la galaxie de 220 millions d'années.
Oui.
À peu près 220 millions d'années. Bon, l'ensemble des étoiles, justement, gravite, tourne autour de la galaxie, pas du tout à la même vitesse. Hein. Il y a donc des variantes, hein, par rapport à cela. Et ce qu'il y a d'important, de fondamental à comprendre par rapport à la Voie lactée, c'est que non seulement on a toute une gamme d'étoiles différentes, d'accord, mais on a aussi de la matière interstellaire.
Ah oui, on revient.
Voilà, donc il y a du gaz. Parce que toutes les galaxies ne sont pas, je dirais, logées à la même enseigne, d'accord. Il y a des galaxies qui ne contiennent que des étoiles vieilles. Vous avez des galaxies qui ne contiennent que des étoiles jeunes. Hein. Mm-hmm. Vous avez des galaxies qui sont dépourvues de gaz.
Hein. D'accord.
Ce gaz est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va être à l'origine de la formation des étoiles. En fait.
Mmh. Vous dites qu'il y a les galaxies, tout ça se meut
dans l'espace.
Dans l'espace. Mmh. Est-ce qu'il est possible que deux galaxies rentrent en contact et que ça fasse une énorme galaxie ?
Tout à fait. Hein, vous pouvez avoir des galaxies qui se rencontrent. Alors ça donne des images plutôt spectaculaires d'une structure plutôt désorganisée.
Oui.
Hein. Vous avez des effets de marée, hein, qui s'exercent au niveau de ces galaxies grâce à ces fameuses interactions. Parce que là, on raisonne sur des quantités de matière
qui sont
particulièrement impressionnantes.
Tout hein, à fait.
Hein, quand vous voyez par exemple pour la Voie lactée que vous avez à peu près 200 milliards d'étoiles. Donc, vous voyez à peu près la masse de matière, les masses de matière qui sont mises en jeu, justement, dans ces interactions.
Et quand ça arrive, ça, vous, avec vos instruments, vous pouvez arriver à voir, justement, deux galaxies qui se frottent au moins si elles ne se rejoignent pas.
Ah oui, tout à fait. Bon, maintenant, après, c'est dans des conditions d'observation assez, je dirais, particulière.
Oui, je veux bien le croire.
Parce que, bon, il faut avoir du matériel photosensible. Hein, donc, mm-hmm. Maintenant, on utilise des caméras
oui.
Qui permettent de pouvoir gagner en quantité d'informations reçues pour bien mettre en évidence justement ces fameuses structures.
Est-ce qu'il y a un rapport entre le milieu interstellaire et la formation des étoiles ?
Donc ça, c'est une question qui est très pertinente, importante, parce que justement, c'est justement la formation donc des étoiles va reposer en fait sur la matière interstellaire. Et dans les émissions précédentes, on disait que dans certaines régions de l'espace, eh bien, on a des nuages, des poches de gaz, hein, de matière, hein, des régions qu'on appelle...
Comme de la fumée de cigarette, on avait dit, d'ailleurs.
Voilà, par exemple. Hein. On a des régions dites H1, qui contiennent donc de l'hydrogène neutre. Ce sont des gaz d'hydrogène qui sont froids. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'étoiles à proximité permettant de pouvoir les réchauffer. Ensuite, on a des régions qu'on appelle H2. Et là, la particularité des régions H2, ce sont des régions d'hydrogène qui sont excitées justement grâce à la présence d'étoiles qui sont très chaudes et qui exciteront les atomes d'hydrogène. Et ceci grâce à des rayonnements à haute énergie, qui sont des rayonnements ultraviolets à haute énergie, qui permettront d'exciter ces atomes d'hydrogène constituant ces fameux nuages. Et ce type de région, on appelle ça des régions H2. Le troisième type de région, eh bien, ce sont des régions moléculaires. C'est-à-dire que dans le nuage, eh bien, on va trouver des molécules. Jusqu'à présent, on parlait de nuages d'atomes, et là, on parle de nuages moléculaires. Moléculaire, ça vient de molécules. Qu'est-ce qu'une molécule ? Eh bien, une molécule, c'est une association d'atomes. C'est une association d'atomes qui sont intimement liés par une liaison énergétique. Et il faut au minimum deux atomes. Par exemple, si vous prenez deux atomes d'hydrogène, si vous les mettez ensemble, eh bien, vous obtiendrez une entité unique qu'on appelle une molécule, et ce sera la molécule de dihydrogène. On peut prendre d'autres exemples. Dans l'atmosphère, par exemple, vous savez que vous avez 21% de dioxygène, et 78% de diazote. Eh bien, le dioxygène, eh bien, c'est une molécule. C'est-à-dire que là, on est en présence de deux atomes d'oxygène qui sont intimement liés. Et pour l'azote, eh bien, c'est la même chose. Vous avez deux atomes d'azote, c'est-à-dire deux atomes de nitrogène qui sont intimement liés. Voilà. Là, bon, j'ai pris des exemples de molécules où on a en présence le même élément chimique, c'est-à-dire le même atome. J'avais pris l'exemple de l'hydrogène, de l'oxygène et puis de l'azote, respectivement pour le dihydrogène, le dioxygène et le diazote. Mais on peut avoir donc des molécules plus complexes. Je prends l'exemple de la molécule d'eau. Eh bien, dans la molécule d'eau, vous avez deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Voilà, vous avez deux atomes d'hydrogène qui sont intimement liés à un atome d'oxygène. Et vous avez de la fameuse formule H2O qui symbolise la molécule d'eau. D'accord. Si vous rajoutez un atome d'oxygène en plus, eh bien, vous obtiendrez de l'eau oxygénée, ce qu'on appelle aussi le peroxyde d'hydrogène. Mais dans le milieu interstellaire, on peut avoir des molécules beaucoup plus complexes que ça. On peut trouver des molécules avec 13 atomes, par exemple. On a des atomes de carbone. Et la particularité de ces atomes de carbone, c'est de constituer un squelette carboné sur lequel vont se greffer d'autres éléments chimiques comme l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Et on parlera dans ces cas-là de molécules organiques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une structure carbonée. Mais dans tout ça, bon, ce qui nous intéresse, ce sont ces fameux nuages d'hydrogène situés dans le milieu interstellaire. Et justement, quand on a des poches d'atomes d'hydrogène, très dense, eh bien, ces atomes d'hydrogène vont avoir tendance à rentrer en collision entre eux et à former justement des molécules d'hydrogène.
Oui.
Hein? C'est-à-dire que les nuages d'hydrogène ne sont pas statiques dans la galaxie. Et on va les retrouver dans le plan galactique, ce fameux plan qu'on a défini tout à l'heure.
Oui.
Ces poches d'hydrogène vont essayer en fait de traverser le plan galactique.
Oui.
Ils vont rentrer en contact des bras spiraux, des régions qui sont très denses en matière. Et là, vous allez avoir des fragmentations de ces poches de gaz. Et pour les nuages donc les plus denses, vous allez avoir un rapprochement des atomes et des molécules. Et ça va créer un échauffement. Un échauffement, vous allez avoir de l'énergie justement qui va se dégager grâce aux contractions gravitationnelles. Et ce type de contraction en astrophysique, on appelle ça des contractions de Kelvin, von Helmholtz, qui vont permettre de pouvoir commencer à créer justement les embryons d'étoiles. Ça peut être, les embryons d'étoiles peuvent se former grâce à l'interaction justement entre les bras spiraux et des poches de gaz d'hydrogène de matière interstellaire. Mmh. Et ceci pour des poches qui sont particulièrement denses en matière. Mais quand je parle de densité, en fait, ce sont des poches qui peuvent avoir une masse équivalente à 50 000 fois la masse du Soleil.
Hein, 50, c'est énorme.
50 000 fois la masse du Soleil. Ce sont des poches de matière extrêmement dense qui peuvent se fragmenter du fait de rentrer en interaction avec ces fameux bras galactiques.
Oui.
Et là, à cause de la gravité, on aura un effondrement gravitationnel de ces poches-là qui vont pouvoir générer les premiers embryons d'étoiles. Mm-hmm. Et c'est pour ça que les étoiles, les jeunes étoiles, naissent dans le plan de la galaxie, au niveau des bras spiraux. Si on a des étoiles à chercher, des jeunes étoiles,
oui.
des étoiles jeunes, eh bien, on les trouvera dans les bras spiraux. Donc ça, c'est une hypothèse, une théorie. Et la deuxième théorie, c'est l'explosion d'étoiles, qu'on appelle des supernovas.
Oui.
Et les supernovas vont émettre une onde de choc dans toutes les directions, je dirais, de l'espace, et iront encercler, englober et compresser ces poches d'hydrogène. Et là aussi, on aura également affaire à un effondrement, mais lié là à une contraction des ondes, en fait, des ondes de densité qui vont permettre de contracter ces poches de gaz d'hydrogène et donner naissance également à des embryons d'étoiles. Donc il y a ces deux théories, ces deux versions qui permettent d'expliquer justement la naissance des premiers embryons,
oui.
je dirais, d'étoiles.
Oui.
Mais il faut déjà, à la base, suffisamment de matière, justement, pour commencer à amorcer, justement, ces premiers embryons d'étoiles. Mais je vous en dirai un peu plus la fois prochaine.
Oui, en effet, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire et je n'ai pas pu poser toutes mes questions. On le disait au début de cette émission, cette année, c'est la Lune qui va être mise à l'honneur à cause des premiers pas de l'homme sur la Lune. Je voudrais savoir déjà ce qu'est une conjonction, parce qu'il y en a beaucoup ce mois-ci.
Oui, le mois de février sera riche en conjonctions. Alors, quand on parle de conjonction, c'est le rapprochement, en fait, entre deux corps célestes.
Ah oui.
Ça peut être un rapprochement de deux planètes, par exemple. Ou alors, ça peut être le rapprochement d'une planète avec d'autres objets célestes. Ça peut être, par exemple, une nébuleuse, une galaxie ou un amas d'étoiles.
Mm-hmm.
Donc, quand on parle de conjonction, c'est un rapprochement entre deux corps. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous prenez un télescope, une lunette et vous utilisez un oculaire à grand champ, eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez justement les deux objets dans le même champ.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est pour ça que c'est relativement remarquable.
Et il y aura la conjonction Lune-Saturne?
Oui, ça sera pour le 2 février.
Oui.
Ça sera au matin, à l'aube, mais ça ne sera pas évident avec le lever du soleil.
Oui.
Sinon, le 11 février, vous aurez un rapprochement entre...
M22 et Vénus.
Voilà, M22 Vénus. Alors, M22, c'est un amas globulaire. Voilà.
D'accord.
Un amas globulaire qui est situé dans la constellation du Sagittaire. Et la particularité de cet amas globulaire, c'est que, curieusement, il contient une nébuleuse. Donc, c'est un cas vraiment très particulier, M22.
Oui.
Un amas globulaire, c'est un amas d'étoiles. C'est-à-dire, c'est un amas dans lequel vous avez une concentration d'étoiles particulièrement importante.
Oui. Mars, Uranus également.
Ça sera pour le 13 février, un rapprochement entre Mars et Uranus. Ça sera le soir. Ensuite, pour le 14 février, eh bien, vous aurez un rapprochement de la Lune et de M44. M44, c'est un amas d'étoiles. Ça, ce n'est pas un amas globulaire, contrairement à M22, mais c'est un amas ouvert. On appelle ça l'amas de la crèche. C'est un amas d'étoiles qui est situé dans la constellation du Cancer, mais qui est très joli à voir au télescope.
Et le 18 février, ce sera Vénus-Saturne.
Vénus, on l'appelle aussi l'étoile du berger.
Oui.
Et Saturne, c'est cette fameuse planète à anneau, qui a un diamètre 10 fois plus grand que celui de la Terre. C'est une grosse planète, une planète gazeuse, et qui possède un grand satellite, Titan. Pour le 18 février, ça sera le matin.
Et puis alors, Vénus aussi va se conjoncturer avec Pluton.
Ça sera pour le 23 février.
Oui, et Pluton, on dit que c'est celle qui est la plus éloignée de la Terre, c'est vrai?
Pluton a été déclassé en qualité de planète.
Oui, c'est vrai.
Un transneptunien, Neptune, c'est-à-dire que c'est un corps, c'est une planète mineure, qui gravite au-delà de l'orbite de Neptune. C'est dans des conditions bien particulières, parce que Pluton, vu sa magnitude, c'est-à-dire son éclat apparent, il faut quand même utiliser des instruments suffisamment importants pour pouvoir mettre en évidence Pluton sur l'image.
Le 27 février, ce sera Mercure. Expliquez-nous ça.
En fait, c'est une élongation. Ce n'est pas une conjonction, c'est une élongation.
Oui.
Alors, une élongation, c'est une distance angulaire par rapport au Soleil. Et quand on a des élongations qui sont maximales, ça veut dire qu'on a un écart angulaire avec le Soleil qui est suffisamment important pour pouvoir observer ici le Mercure. Parce que Mercure n'est pas du tout évident à observer, parce que souvent... un peu noyé justement dans la luminosité solaire. Son élongation sera maximale le 27 février au soir. Ce n'est pas une conjonction. Quand on parle de conjonction, c'est souvent lié à des rapprochements entre les planètes et d'autres corps. On n'inclut pas le Soleil dans ces cas-là.
D'accord, bon, très bien. Les activités des Pléiades, alors il y aura le 9 et 10 février un week-end d'escapade.
Oui, c'est convivial, on peut manger sur place et puis on peut assister à des conférences et observer. Ça sera donc le 9 et le 10 février.
Et on pourra observer avec les instruments que vous avez.
Oui, tout à fait.
Ah, c'est super ça.
Exactement.
Et tous les dimanches, vous faites des séances de planétarium.
Oui, tout à fait, à 16h, tous les dimanches. Bon, bien sûr, il faut réserver.
Oui.
De la chance d'avoir une place. ce que je voudrais rajouter, c'est que les Pléiades a édité un carnet d'observation du ciel.
Oui.
Qui est mis en vente pour 11 euros, oui. port inclus. C'est raisonnable. Et là, vous aurez toutes les éphémérides de l'année 2019.
Très bien.
Avec des explications complémentaires sur l'astronomie, bien entendu. Comme je le dis, le plus simple, c'est de taper « Balcon des étoiles » dans le moteur de recherche, et là vous tomberez directement sur la page des Pléiades, le 05 62 23 21 13, 05 62 23 21 13. Merci Gisèle, merci à toutes et à tous.